Radio Okapi.
Le journal, présenté par Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être nombreux à l'écoute de cette édition du journal. Voici les principaux titres. Alerte de l'ONG Save the Children. Plus de 370 000 enfants dans l'est de la RDC risquent d'être recrutés par des groupes armés, avec près de 775 écoles fermées dans le Nord Kivu. Des milliers d'enfants sont privés d'éducation. Une situation catastrophique qui compromet leur avenir. Conflit autour du budget communal dans la province du Kwilu. Le gouverneur intérimaire appelle le bourgmestre et les conseillers municipaux en conflit à collaborer pour assurer le bon fonctionnement des communes. Une équipe provinciale des Nations Unies créée dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. Elle permettra de mener des actions concertées entre les agences et les organisations du système des Nations Unies dans les provinces de Mongala, de l'Équateur, du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et de la Chuapa. Bruno Lemarquis, représentant résident du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en parle dans ce journal. Il est notre invité. Plus de 370 000 enfants dans l'est de la RDC sont exposés à un recrutement éventuel par les groupes armés, s'inquiète l'organisation internationale Save the Children. Beaucoup parmi eux sont des élèves. Des centaines d'écoles sont actuellement fermées dans le Nord Kivu en raison de la guerre que mène le rebelle du M23, appuyé par le Rwanda. Dans son communiqué publié la semaine dernière, l'ONG parle d'une situation catastrophique qui compromet l'avenir des ses enfants. Plus de détails avec vous, Ronelli Ntimbonera.
Les écoliers sont les victimes collatérales de cette guerre, dit Save the Children. 375 000 enfants environ sont privés d'éducation. C'est à cause de la guerre, une situation qui les expose à des risques accrus de recrutement par divers groupes armés et à d'autres formes d'exploitation, s'inquiète cette ONG de défense des enfants dans un communiqué publié la semaine dernière. L'organisation souligne également que les enfants de la région de l'Est sont des cibles potentielles de violences, notamment de violences sexuelles. L'ONG parle de près de 775 écoles qui sont actuellement fermées dans la province du Nord Kivu, privant ainsi les enfants d'éducation. Et beaucoup ont été transformés en abris pour les familles déplacées. Toujours selon ces communiqués, depuis janvier dernier, la fréquentation des enfants à l'école a diminué considérablement dans cette province où 1,3 million d'élèves étaient inscrits selon l'ONG. La situation est catastrophique, a déclaré le directeur de Save the Children, Greg Ram. Il ajoute que les enfants sont privés de leurs droits fondamentaux à l'éducation et les conséquences à long terme pour leur avenir et l'avenir du pays sont désastreuses.
Face à l'aggravation de la crise dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, et au risque d'un embrasement régional, le système des Nations Unies intensifie ses efforts pour soutenir la RDC dans ses défis actuels. C'est ce qu'affirme Bruno Lemarquis, représentant résident du secrétaire général des Nations Unies en RDC, dans une note d'information émanant de sa cellule de communication. Alors que cette crise menace non seulement le développement, mais aussi la stabilité sociale des communautés touchées, il évoque une révision stratégique mettant l'accent sur des actions coordonnées pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre des coopérations 2025-2029. Voici le résumé de Ronéline Timbonera présenté par Jude Bilanda.
Pour ce nouveau cycle de coopération, l'ONU prépare les terrains pour la réussite des objectifs de développement durable en collaboration avec le gouvernement congolais. Malgré un environnement instable, les priorités sont clairement établies. Une croissance inclusive, créatrice d'emplois, les renforcements de la gouvernance et de l'état des droits, un accès élargi aux services sociaux des bases et une gestion durable des ressources naturelles pour prévenir les conflits, révèle cette note d'information de la cellule de communication de Bruno Lemarquis. Afin de garantir une action plus cohérente, le système des Nations Unies mise sur l'approche One UN qui favorise la synergie entre les agences onusiennes et la mise en œuvre des programmes conjoints ciblant à la fois les besoins des populations vulnérables et les défis environnementaux. Cette note précise également que pour favoriser l'atteinte de ces objectifs, au moins 8 équipes de coordination locale pour les interventions humanitaires ont été mises en place à travers la RDC depuis 2024. Cette initiative vise à transformer les défis actuels en opportunités et à accompagner la RDC vers un avenir stable et prospère.
Dans la province de l'Ituri, des milliers d'habitants de la localité de Dina, composée essentiellement de déplacés, bénéficient de soins gratuits au centre de santé de référence de cette localité dans les territoires de Djougou. C'est grâce à l'appui financier des ONG internationales Alima et Kopi, les bénéficiaires qui affluent dans cette structure sanitaire indiquent que cette assistance permet de réduire sensiblement le cas de décès dans cette entité affectée par les conflits armés. C'est un reportage de Jean-Claude Loki-Dile.
Depuis le mois d'avril 2024, l'ONG Alima a signé un partenariat avec les autorités sanitaires pour ravitailler cette structure en médicaments et en équipements. Cet appui concerne aussi la prime du personnel médical. Le résultat s'est vite fait ressentir, comme l'explique le médecin responsable de cette formation médicale, le docteur Daniel Biaruhanga.
Je prends un exemple simple. En février 2023, on avait 536 consultations curatives le mois. Et directement en avril, on a eu 1780 consultations curatives. Et même sur le plan naissance, il y a eu augmentation de naissance.
Ces déplacés sont dépourvus de tout, avouent-ils. Cet appui est donc un soulagement car plusieurs décès étaient enregistrés au sein de leur communauté à cause du manque d'argent pour se faire soigner. Chantal Ndjangoussi est une habitante de Jina.
Nous sommes très très reconnaissants envers l'ONG Alima. Nous accouchons gratuitement. Les consultations prénatales et les césariennes sont gratuites. Nombreux parmi les déplacés n'ont même pas erron. Sinon, on allait enregistrer beaucoup de morts.
Population et autorités sanitaires s'inquiètent cependant de retourner à la case du départ car ce projet arrive à terme à la fin du mois d'avril prochain. De retour de Gina, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Comme annoncé dans les titres, un bras de fer oppose le bourgmestre de trois communes de la ville de Bandundu aux conseillers communaux récemment élus. Ces derniers se disent ignorés par le bourgmestre qui ne leur transmet pas le projet du budget communal, les empêchant ainsi de procéder au contrôle parlementaire. Du côté de bourgmestre, ils affirment ne pas être redevables aux élus conformément à la loi, car ils n'ont pas été élus par eux. Cette situation a poussé l'autorité provinciale à organiser ce vendredi au gouvernorat une rencontre réunissant les deux parties ainsi que l'autorité urbaine de Bandundu et l'inspection territoriale afin d'évaluer la situation et de trouver des solutions. Le point avec Irène Mboma Luzolo.
Au sortir de cette rencontre tenue à Bandunduville, les conseillers communaux de toutes les trois communes de cette ville ont dénoncé ce qu'ils appellent manque de considération dont ils sont victimes de la part des bourgmestres de ces entités. Selon eux, ces derniers refusent de leur rendre compte, se vantant d'être nommés par ordonnance présidentielle. Trésor Tabuku est le président du collectif des conseillers communaux de Bandundu.
Le mésentente était au niveau où le bourgmestre ne voulait pas nous montrer un peu le projet de budget des fonctionnements des communes. Comment est-ce que nous, les autorités qui devaient contrôler, nous ne savons pas les budgets de quoi?
Les deux parties en conflit sont donc appelées à la collaboration pour le bon fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées. C'est ce qui ressort de ces échanges, selon le ministre provincial de l'Intérieur du Kwilu Assima, l'intérim du gouverneur des provinces en mission, Jean Malon Bongompassi.
Les animateurs des ETD, même s'ils ne sont pas redevables, mais ils doivent collaborer avec les conseillers pour qu'ensemble qu'il y ait un bon fonctionnement des ETD.
Les élus communaux ont souligné la nécessité de l'organisation des élections des bourgmestres et des conseillers urbains. Ils estiment que sans ces élections, le développement à la base ne sera qu'illusion. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit sur Radio Kapi, au sud Kivu, précisément à Bukavu. La campagne de dépistage volontaire du cancer du sein et du col de l'utérus organisée par le centre hospitalier Biopharm s'est clôturée hier jeudi. Selon les organisateurs, une centaine de femmes ont participé à cette activité de 4 jours. Le sénateur Norbert Basengezi Kantintima, initiateur de cette structure médicale, a souligné que malgré la guerre et le souffrance l'agence Biopharm a voulu contribuer à la santé des femmes en procédant à des dépistages gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus à l'occasion du mois des droits de la femme. Plus de détails avec Élise Cavira.
Plusieurs femmes ont favorablement répondu à ce dépistage volontaire et gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus organisé par le centre hospitalier Biopharm. C'est là, au-delà des prévisions, comme l'affirme Dr Armand Chinamula, médecin cancérologue.
Franchement, on est surpris, donc on est dépassé. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont venues et voilà, on devait les faire sur 3 jours, mais voilà, donc on va les faire jusqu'à vendredi, donc sur 4 jours.
Le cancer du sein et du col de l'utérus sont parmi les plus grandes causes de mortalité. C'est ce qu'explique Dr Jean-Claude Balegana, médecin cancérologue au centre hospitalier Biopharm.
Le cancer du sein et le cancer du col constituent le premier cancer dans notre milieu. Lorsqu'on prend tous les cancers confondus, c'est le cancer le plus fréquent dans notre milieu et ça tue tous les jours.
Cette patiente qui vient de finir son dépistage dit avoir appris la nouvelle de ce dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus par ses amis. Elle nous parle de ses résultats.
Après examen, ils m'ont dit que je n'ai aucun problème au sein. Ensuite, c'était l'examen de la matrice. Là aussi, il n'y a pas de problème. Mais ils ont dit que je fasse la radio pour avoir plus de précisions et la confirmation que je suis bien portante.
Notez que le centre hospitalier Biopharm 1 de Bukavu totalise 26 ans cette année selon son initiateur.
Dans la province du Maniema, après près de 10 ans, l'Union nationale de la presse congolaise UNPC Maniema se prépare à organiser une assemblée générale élective pour se doter des membres légitimes. Pour ce faire, un comité de crise a été mis en place suite à la démission du président sectionnaire. Grâce Mbambiwa Mbambi, président du comité de crise, appelle les autorités et tous les professionnels des médias à soutenir cette initiative pour mener à bien cette mission. Grâce à Mbambiwa Mbambi s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes un comité provisoire. Nous avons été désignés il y a presque une semaine. Alors, il était important pour nous de commencer d'abord par le civilité auprès de l'autorité provinciale. Et ensuite, nous sommes allés présenter à l'autorité notre agenda. Parce que nous sommes, comme je venais de dire tantôt, un comité provisoire. Et nous avons reçu des missions spécifiques qui sont, entre autres, l'organisation d'une nouvelle assemblée générale élective de l'UNPC au Maniema et l'identification de tous les professionnels des médias dans notre province. Et cette assemblée générale sera précédée justement par l'identification. Et nous sommes allés présenter notre agenda auprès du gouverneur de province qui a été réceptif à notre message et il nous a même promis son accompagnement personnel pour que nous puissions réaliser cette mission dans l'ensemble de notre province. Je suis en train de lancer un message pathétique à tous les professionnels des médias qui œuvrent dans notre province. Nous sommes un comité de fait, c'est-à-dire que nous sommes là pour des missions qui ont été déterminées bien avant. Et pour que nous puissions réaliser ces différentes missions, nous avons besoin de l'accompagnement des uns et des autres. Nous voulons qu'ils nous accompagnent dans ce que nous sommes en train de faire pour que après 10 ans, avoir un comité légitime qui a été élu par tous les professionnels des médias. D'ailleurs, c'est la plus grande mission qui nous a été confiée.
Les petits commerçants transfrontaliers congolais peuvent enfin souffler. Julien Paluku Kaunga, ministre du Commerce extérieur, et Doudou Fwamba Likunde Libotayi, ministre des Finances, ont signé un arrêté interministériel pour la mise en œuvre du régime commercial simplifié RECOS aux frontières de la RDC avec ses voisins membres du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA. Les instruments utilisés dans le cadre de ce régime incluent la déclaration douanière simplifiée, la liste commune et harmonisée des produits éligibles au RECOS, le certificat d'origine simplifiée, les factures pour les produits manufacturés figurant sur la liste commune et le certificat phytosanitaire pour le produit du cru. Plus de détails avec Étienne Lissoumbou.
Pour bénéficier des facilités qu'offre le RECOS, le petit commerçant transfrontalier doit résider dans un pays membre du COMESA, dans les zones frontières, et présenter certains documents, notamment la pièce d'identité, le certificat d'origine simplifiée des produits manufacturés, la facture commerciale de produits, mais aussi posséder les statuts des petits commerçants conformément à la législation des pays d'origine et en signer un accord bilatéral sur les commerces transfrontaliers avec la RDC, figurant sur la liste bilatérale commune des produits éligibles au RECOS et dont la valeur n'excède pas 500 $100 par jour et par commerçant et être membre d'une association regroupant le petit commerçant transfrontalier officiellement reconnu par les autorités compétentes de pays et ayant signé des accords bilatéraux de commerce transfrontalier avec la RDC, indique cet arrêté interministériel commerce extérieur et finance. Rappelons que la RDC et le Burundi avaient lancé officiellement le régime commercial simplifié récosse du marché commun pour Afrique orientale et australe, comme ça le 30 octobre 2024 par l'entremise de leur ministre du commerce extérieur au niveau des frontières des Kamvivira et des Gatumba.
L'actualité, c'est aussi le travaux de modernisation de la route Kassindi-Beni-Boutembo suspendue depuis près d'un an qui reprendront dans les prochains jours. L'annonce a été faite mercredi à Beni par le gouverneur de province après sa rencontre avec le ministre ougandais des infrastructures et l'entreprise indienne Dot Service Limited qui avait remporté le marché pour l'exécution de ces travaux. André Kitenge pour les détails.
C'est depuis près d'une année aujourd'hui que les travaux de modernisation de cette route qui relie la République démocratique du Congo à l'Ouganda en passant par la cité frontalière de Kassindi-Loubiria sont suspendus. Des travaux qui étaient lancés en grande pompe en juin 2021 par le chef d'État Yoweri Museveni de l'Ouganda et son homologue de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon des sources de l'entreprise indienne Dot Service Limited qui exécute les travaux, les difficultés liées à l'acheminement des matériels et le non-respect de certaines clause du contrat par les deux pays concernés dans ce projet était à l'origine de cette suspension. Pour le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule, les obstacles liés à l'avancement des travaux ont été levés. Rappelons que la route Kassindi-Beni et Beni-Boutembo, long d'environ 140 km, ouvre la voie à l'Afrique de l'Est et à l'océan Indien à partir de Kassindi-Loubiria. Des travaux qui devraient être financés à hauteur de 60% par l'entreprise indienne Dot Service Limited basée en Ouganda, et 20% par chacun des deux gouvernements congolais et ougandais.
Actualité internationale.
Au Gabon, les violences faites aux femmes connaissent une augmentation inquiétante. Une enquête réalisée en 2024 dans les commissariats et tribunaux de l'ONG Aurore révèle l'ampleur du phénomène. En effet, cette enquête fait ressortir que sur 900 cas de violences faites aux femmes, 500 ont abouti à un procès. Quelques 400 victimes ont soit abandonné leur procédure, soit retiré leur plainte sous la pression de la société. Au Gabon, les viols sur les mineurs et agressions sexuelles des garçons sont les affaires les plus traitées au pénal. Le rapport note également une fulgurante montée de féminicides dans le pays. Actuellement, l'ONG Aurore mène une campagne pour vulgariser ces rapports et sensibiliser les femmes sur un phénomène dangereux couvert en partie par la loi du silence. C'était le cas devant l'église Saint-Christophe à Akanda.
L'invité.
Au début de cette semaine, une équipe provinciale des Nations Unies a été créée dans la ville des Mbandaka, située dans la province de l'Équateur. Bruno Lemarquis, représentant résident du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a procédé à son installation. Selon ce haut cadre onusien, cette coordination permettra de mener des actions concertées entre les agences et les organisations du système des Nations Unies dans les provinces de la Mongala, de l'Équateur, du Nord-Ubangi, du Sud d'Ubangi et de la Chuapa. Bruno Lemarquis est l'invité de ce journal et son entretien avec Ronéline Timbonera.
Bruno Lemarquis, vous venez d'achever une journée de travail en Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir des discussions que vous avez eues avec les différents acteurs politiques et humanitaires de cette région?
Nous avons d'abord visité le gouverneur pour présenter nos civilités et discuter de la coopération entre le système des Nations Unies et la province. Ensuite, nous avons eu une réunion avec les collègues des Nations Unies qui sont basés ici à Mbandaka, mais qui sont aussi basés dans les quatre autres provinces de ce qui constituait avant le Grand Équateur, donc les deux provinces de l'Ubangi, Mangola et Baba. Parce que nous avons inauguré aujourd'hui un nouveau mode de fonctionnement avec la mise en place de ce qu'on appelle l'équipe provinciale des Nations Unies pour toutes ces cinq provinces. Ouais. Donc pour être organisé de manière plus coordonnée, plus cohérente, on s'organise un peu de manière différente. Il y aura une personne qui va être désignée pour être le coordonnateur de toute cette équipe des Nations Unies États-Unis dans le Grand Équateur et aussi pour avoir aussi des rencontres régulières avec les autorités pour être bien aligné aux priorités des autorités. C'est la Grande Réunion. Ensuite, nous avons une réunion avec tout le personnel des Nations Unies dans ces 5 provinces, en présentiel et en ligne. Et puis là, nous sommes en train maintenant de visiter une initiative qui est appuyée par l'UNICEF et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et un centre de traitement pour les patients suspectés ou à Mpox. Donc c'est un centre de traitement qui est en face de l'hôpital général de Mbandaka. Donc les médecins de la DPS viennent de nous expliquer où en est l'état de l'épidémie de Mpox ici, la coopération avec les Nations Unies, etc. Donc nous sommes contents d'entendre que au niveau de la province, l'épidémie commence à s'atténuer après tous les efforts qui ont été faits.
Vous avez mentionné la création d'une équipe provinciale regroupant les agences et organisations du système des Nations Unies. Quel sera son rôle dans les 5 provinces qui composent la Grande Équateur?
Dans le jargon Nations Unies, on appelle ça One UN, c'est-à-dire un Nations Unies. Donc les agences travaillent encore mieux entre elles, avec des initiatives conjointes, des programmes conjoints, etc. Mais surtout aussi qu'on ait des dialogues réguliers et en tant que système et pas en tant qu'agence individuelle avec les autorités, avec les gouverneurs des provinces concernées, avec les directions du ministère du plan qui gère tous les plans de développement provinciaux. Donc c'est avoir un meilleur alignement. Voilà.
Aujourd'hui, la Grande Équateur semble être négligée dans les actions de développement mises en œuvre par les organisations humanitaires. Pensez-vous que cette équipe provinciale pourra remédier à cette situation des délaissements?
On a mis ce système en place dans beaucoup d'autres provinces du pays, notamment dans tout l'est du pays et le Haut-Katanga et tous les Kasaï. Donc il y a beaucoup de leçons déjà qu'ils peuvent apprendre. Il faut qu'ils soient en contact avec leurs collègues. Ensuite, il y a toujours beaucoup de plaidoyers à faire pour l'ouest de la RDC, qui est un peu oublié par rapport à l'est, puisque les crises attirent l'attention, les crises attirent l'argent, alors que l'ouest, ce sont des provinces plus calmes, avec beaucoup d'opportunités de développement, mais il y a beaucoup moins de partenaires de développement qui sont présents ici. Donc on espère qu'en étant organisé de cette manière, on aura des plaidoyers plus conjoints auprès des partenaires de développement pour qu'il y ait plus d'activités.
Merci cher Bruno Lemarquis.
Merci beaucoup et merci à vos auditeurs.
Bruno Lemarquis, représentant résident du secrétaire général des Nations Unies en RDC, s'entretenait avec Ronelly Timbonera. Ce journal se termine sur Radio Capi. Il a été mis en onde par Jean-Claude Nsiala, coordination Jude, Mystère Bilanda, supervision Alain Irungo Mushinge, à la présentation Gisèle Cage. C'était un plaisir de vous informer. Merci de votre fidélité à Radio Capi.